L'expérience commence. Est-ce qu'on va en rester dans la vie à ceux et celles qui nous ressemblent ? Stéphane Mercurio a eu besoin de trouver une réponse à son désarroi, elle le nomme comme ça, face au discours sur l'immigration en France. Elle est cinéaste, mais cette fois-ci elle a choisi le son et la radio, suite à sa rencontre avec la psychiatre Fatma Bouvet de la Maisonneuve, autrice d'Une arabe en France aux éditions Odile Jacob. Elle reçoit dans son cabinet ceux dont la vie est bousculée par les débats sur l'islam, ceux qui ressentent une fatigue immense à devoir réfléchir à leur identité chaque jour, à chaque pas, quand d'autres n'y pensent pas. Des patients ont accepté que Stéphane Mercurio enregistre les consultations. Nous sommes donc dans le cabinet à écouter la guerre que certains ont pu mener à eux-mêmes pour tenter de réconcilier ce qu'on leur fait croire irréconciliable. Je me suis fait la guerre ou comment être un bon arabe par Stéphane Mercurio, réalisation Nathalie Battus.
Comme prévu, hein. Ouais.
Merci.
On reprend rendez-vous.
Oui, on n'avait pas pris.
Ah, je crois pas.
J'ai oublié. Est-ce que je peux recharger 2 minutes mon
portable ? Je me suis fait la guerre. Par Stéphane Mercurio et Nathalie Battus.
Attestation.
Vous voulez que je vous donne un papier disant que.
Je peux vous demander pourquoi finalement vous avez accepté que cette séance soit.
Parce que j'ai confiance en vos médecins.
Au revoir, docteur.
Au revoir. En fait, j'en ai marre qu'on parle à ma place.
Je voulais, en fait, je me posais la question de pourquoi les gens acceptent qu'on soit là et qu'on enregistre ces séances.
Parce que je pense qu'il y a un... Excusez-moi, je dois juste répondre au téléphone.
Allô ? Oui, bonjour. Ah oui, bonjour, comment allez-vous ? Ça va ? Alors, il y en a qui m'ont dit que ce serait thérapeutique pour eux. Que ce serait une sorte de catharsis que de pouvoir parler de ça, comme ils disent, hein, ça, toujours ça revient, ça, et que ça puisse être entendu.
Bon, on se voit quand même.
Il y en a qui se sont un petit peu préparés quand même, hein. Donc ça a organisé leurs idées. D'autres, pratiquement par devoir,
en décembre,
devoir de dire que ce qui se dit aujourd'hui, c'est pas eux. Voilà, et ils ont insisté. Hein,
21, par exemple, bonjour.
Il y a d'autres patients qui n'ont pas accepté parce que c'était trop dur pour eux. Et la première chose, le premier mot qui est venu pour expliquer le refus, c'est la peur. La peur des conséquences, la peur qu'on dise qu'ils sont victimes, encore une fois. Oui, la victimisation, ça c'est un mot qui revient tout le temps. Eux ne veulent absolument pas se considérer comme victimes.
Si, je vous ai déjà envoyé un...
Pour certains, ils ont peur qu'on dise « Ah, encore eux qui
là,
se plaignent, on en a marre. »
Mais cherchez, vous
Or, ils ont raison, là. Quoi. Bon, ils ont raison. Ils se plaignent pas ouvertement et publiquement parce qu'on peut pas... On n'autorise pas des tribunes à ces gens-là. Alors, ils parlent ici.
Qu'est-ce que je fais ? Oui, bonjour, bonjour.
C'est pas grave, vous pouvez les garder allumés s'il y a des urgences.
Je suis en tout cas ce matin.
Comment ça va depuis la dernière fois ?
Comment ça va depuis la dernière fois ? Fatigué, j'arrive à mieux dormir.
C'est
donc j'ai l'impression que ça va un peu mieux.
Vous avez commencé votre régime ?
Oui.
D'accord.
Bon, ça se voit pas très bien, mais... c'est non, les tablettes de chocolat qui commencent à fondre. Oui, ben j'essaie de moins fumer. Je dors mieux. Après, je vous dis, maintenant, j'ai la sensation que c'est plus une fatigue morale que physique.
Ben oui, je pense aussi.
Est-ce que c'est lié à une surcharge de travail ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi d'ailleurs je me mets autant de pression, hein, pour être sincère.
Mais oui, c'est le sujet. C'est le sujet de nos consultations.
Tant que, voilà, c'est ça, tant que j'arriverai pas à comprendre pourquoi je me mets autant de pression, je pense pas que j'arriverai à souffler, mais pourquoi me dire qu'il faut qu'on m'adopte, entre guillemets, c'est le fait de pas appartenir à quelque chose. Donc on a le sentiment qu'on est dans un pays qui, du fait qu'on est né ou pas dedans, qui de toute manière nous n'accepte pas, ou nous comprend pas. À 10 ans, j'ai été attaqué par des jeunes gens qui avaient 18 ans, de mémoire, hein, en tout cas qui étaient beaucoup plus âgés, où j'étais littéralement tabassé dans mon quartier, où on me disait « sale bougnoule ». Le premier terme « bougnoule », je ne connaissais pas. Chez moi, c'est quelque chose qu'on on avait entendu parler de melon. Parce que d'origine algérienne, il y avait cette histoire avec la guerre d'Algérie, etc. Mmh. Même si, effectivement, j'ai vécu dans une famille qui était protégeante, entre guillemets, et qui a toujours véhiculé une image, ou en tout cas, une philosophie de l'être humain ouverte, etc., etc. Mmh. Je veux dire, il y avait toujours l'extérieur qui me rappelait. Mmh. L'extérieur, ça va être à 14 ans, enfin 13-14 ans, quand vous sortez pour la première fois avec une jeune fille, vous prêtez pas attention à de quelle origine, et c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Et puis vous avez quelqu'un du force de l'ordre qui vous enlève violemment la main et vous brusque en vous disant « Toi, tu restes là, la jeune fille, elle rentre chez elle, tu n'as pas à sortir avec une Française. » Ça commence par ça. Après, c'était...
À 14 ans.
Vous
réalisez quand même que ce sont des traumatismes. Ce sont des traumatismes.
Mais c'est pour cette raison, je pense que quelque part, je me suis toujours forgé cette envie de.
Mais ce sont des traumatismes, j'insiste sur le terme, pour que vous réalisiez que ça laisse des traces adultes et que vous. Il y a un cheminement, justement, pour réparer ces traumatismes. Je veux dire, ça n'est pas banal. Ça n'est pas banal.
Mais la question est là, c'est comment... parce que j'en ai conscience, j'ai le sentiment, je suis quasiment sûr d'en avoir vraiment une conscience pleine. Mais comment réparer ou comment faire, c'est moi, je n'y arrive pas. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on ne peut pas ne pas se sentir différent. À longueur de temps, on est
obligatoire. Qu'est-ce que ça vous fait
Oui, c'est quelque chose qui est fort, parce que vous allumez la télé, et paf, il y a quelque chose qui vous touche obligatoirement.
Et comment ça vous touche? C'est ça qui
m'intéresse très...
en tant que psychiatre, parce que
moi ça me pèse beaucoup.
C'est-à-dire je le sens bien.
Je ne peux pas m'enlever ou en tout cas m'extraire des médias, par exemple. C'est je m'énerve contre la télé. Je parle souvent aussi comme si j'étais invité sur le plateau en argumentant. Ça fait des nœuds dans l'estomac parce qu'on se sent encore rien, en fait. C'est ça la question. C'est la situation, enfin ma situation moi en France, c'est que j'ai l'impression de ne sentir rien. Comment se sentir dans une cité dans laquelle à longueur de temps on vous dit que vous n'appartenez pas à cette cité?
Quand vous dites je ne suis rien en France, c'est que vous ne trouvez pas votre place en France. Vous cherchez votre place au travail. Vous cherchez votre place en tant qu'individu. Et en fait, dans la vie, il est important de trouver une place. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être derrière ça que vous courez aussi.
Oui, là, ça fait résonance. Là. Quand j'étais adolescent, j'ai jamais réfléchi à avec qui j'allais me mettre en ménage. C'est-à-dire que vous tombiez amoureux, tout se passait bien, il n'y avait pas une couleur de peau, pas d'origine, pas de nom. Et puis quand je suis revenu aux États-Unis, donc j'ai divorcé, j'étais avec une normalienne, où j'ai eu du mal un peu à trouver ma place.
Par rapport à elle?
Pas spécialement à elle et sa famille, parce que elle a sorti du lot, et donc sa proche famille, c'est-à-dire père et mère, m'ont accepté, hein. Mais sa famille plus large, non, on va pas retenir votre prénom, par exemple, Kamel, lors des réunions. Mais on m'appelait Shamir pendant très longtemps. Voilà, c'est un mélange de chameau et de Samir, je sais pas de quoi, j'ai jamais réussi à trouver le... Mais
c'est
donc,
terrible.
Du coup, voilà, mais c'est vrai qu'à 35 ans, je me suis posé la question sur ma place, ou en tout cas, quelle famille je voulais fonder, mais est-ce qu'il n'était pas préférable, peut-être pour une fois dans ma vie, de commencer à réfléchir à trouver quelqu'un qui me ressemble? Alors, c'est quoi quelqu'un qui me ressemble? Bon, je n'ai pas répondu à cette question-là. Je suis tombé amoureux d'une personne française blanche, c'est comme ça qu'on dit, non pratiquante. Mais en tout cas, le fait de m'être posé la question à 35 ans, ça m'a interpellé. Pourquoi aujourd'hui je suis obligé de m'interroger sur qui va partager ma vie?
C'est très important, hein, ce que vous dites là. Et est-ce que vous avez l'impression que ces derniers temps, c'est un petit peu plus compliqué pour vous ici, c'est plus récurrent? Ça peut effectivement peser psychologiquement, surtout quand vous me dites que vous vous énervez contre la télé et que Est-ce que vous regardez parfois des émissions que vous n'avez pas envie de regarder juste pour pouvoir vous énerver?
Ouais. Oui, on me pas le pour pouvoir souvent, s'énerver. Ça. Alors, je ne sais pas si c'est réellement pour pouvoir m'énerver, mais du coup, j'ai inconsciemment peut-être une envie, j'allais dire sadomaso, non, ce n'est pas ça, je boutade, mais on a envie d'être l'interlocuteur. Et donc, je regarde un débat où je sais très bien comment ça va finir,
oui.
mais dans lequel, voilà, j'échange. Je sais pas comment l'expliquer. En même temps, est-ce que j'ai vraiment réfléchi à pourquoi je regardais ça? Je pense que c'est pour prendre un peu la température aussi. C'est pour se dire, est-ce qu'on pense vraiment, enfin, jusqu'où on est capable d'aller, quoi.
Oui.
Moi, en tant que Français d'origine maghrébine, de confession en plus musulmane, sur les deux dernières années, et plus particulièrement là maintenant, c'est difficile. Mm-hmm. Quand vous vous levez le matin, il y a un attentat, première chose, je vous assure, hein, c'est ma femme qui m'a fait la remarque. Je me dis, mais j'espère que c'est pas un Mohamed. Alors c'est peut-être une pression que je me mets, mais j'arrive pas à me l'enlever.
C'est pour ça que je vous disais très souvent de vous ménager, parce qu'effectivement, vous sentez... comme ça, doté de cette mission de réparer des choses pour vous, pour les autres. C'est pour ça que vous êtes très souvent, régulièrement épuisé.
Oui, voilà. Mais après, que faire? Vous savez, je réfléchis depuis qu'on a réussi, grâce à vous, à mettre des mots dessus. Soit je me dis que je me recroqueville sur moi-même, et c'est-à-dire que je me crée, ou en tout cas, je pars sur ce repli communautaire, identitaire, ou on l'appelle comme on veut. Mmh. Je vais faire en sorte que tous mes amis me ressemblent, mais c'est quelque chose que je ne conçois pas. Je ne suis pas sûr que ce dont j'ai envie pour une société comme la nôtre. Mmh.
Je pense qu'on a terminé. En fait, moi, je trouve qu'au niveau de la dépression, et ça fait un moment que vous allez vraiment mieux, hein, donc je pense qu'il faut vraiment maintenir... le traitement. Pour le sommeil, c'est...
on est en bas de voie, j'ai l'impression. Ouais.
Ah oui, ça marche bien. Ok, je pense que je vous ai donné votre ordonnance la dernière fois. Hein.
Oui.
Ouais.
Non.
Ah, ok. Je dois vous en faire une ou vous avez...
Oui,
vous
je
avez...
veux bien, oui, s'il vous plaît.
Ouais, ok, ça marche. Parlé de la famille, je me souviens, et la vie. Alors, je voulais qu'on essaye de reparler et d'analyser cette question de solitude et de choix de conjoint, de partenaire.
C'est vrai que là, j'y repense plus parce que bon, comme j'étais dans le travail, j'y pensais pas trop. Donc c'est compliqué, mais je vous avais dit que je m'étais dit que j'allais m'inscrire dans un site de rencontre, tout ça. Mm-hmm. Mais je ne l'ai pas encore fait, puisque finalement, c'est pas le bon moment, quoi.
Quel type de site de rencontre?
C'est vous qui m'aviez conseillé un site un peu plus... Donc je me suis dit, je vais m'inscrire à Elite, je ne sais pas quoi, là.
Ouais.
Donc je vais voir. Je vais voir, ouais.
Mais vous vous êtes inscrite ou pas?
Non, pas encore. En tout cas, je veux, quoi. Vraiment, là, c'est un objectif.
Ouais.
Sur cette année, je me suis dit...
Ah oui
que, ouais.
Bon, ben ça tombe bien qu'on en parle comme ça, alors, du coup.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, ce serait quoi l'homme de vos rêves?
C'est pas de mes rêves, mais moi, je veux quelqu'un qui partage des choses avec moi, qui me respecte, qui est intelligent, qui... Voilà.
Mais jusque-là, vous n'avez pas trouvé?
Non.
Pas pour ça, d'après ce que j'ai compris. Pas parce que vous n'avez pas trouvé d'homme intelligent ou...
Non, mais je sais pas, ça marche pas. Je sais pas, franchement, ça doit être de mon côté, mais je sais pas, je choisis pas les bonnes personnes. Je choisis des gens torturés, je choisis des gens... Peut-être. Mais bon, je sais pas, je me dis,
Je sais pas. Mmh. En tout cas, ils ne viennent pas vers moi. Mmh. Ou alors, s'il y a des personnes qui viennent, je vais vous donner un exemple. Elles n'ont pas de dents.
Comment ça, elles n'ont pas de dents?
Elles sont édentées. Non, mais c'est un exemple. Mais c'était un jour, quand j'étais partie en Malaisie, on avait été dans un hôtel. Et le frère de celui qui avait l'hôtel, une fois, je lui avais demandé où est-ce que c'était la Qibla, parce que je priais. Et je sais pas, il a dû croire que c'était un appel et il avait pas de dents. Donc moi, j'attire des gens comme ça. Voilà, donc moi, je suis pas du genre à aller vers les hommes, vous voyez. Je suis assez timide.
Mais comment vous allez faire, là, donc votre objectif pour l'année 2021, c'est de trouver un homme?
Oui, dans les sites, c'est peut-être plus facile. On clique sur des critères. Mais c'est vrai que je vais cliquer sur musulman. Mais bon, après, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est quelqu'un de bien. Hein, ça veut rien dire. Donc, parmi les musulmans, je ferai mon choix aussi.
Faudrait que ce soit un musulman de France ou un musulman de...
Oui, pas du bled.
Pas du bled.
Non. Pourquoi? Bon, après, je sais pas, c'est un a priori. Hein, mais après, moi, je me dis, ça me gênerait qu'il... Je me dis toujours, ça se trouve, il voudra de moi parce qu'il veut les papiers, vous voyez? J'ai cette idée-là.
Mais...
C'est des préjugés que j'ai, hein, sûrement. Hein, moi, ça me fait peur aussi. Je me dis, je veux me marier avec un musulman, mais en même temps, je me vois pas... je suis quelqu'un d'assez, quoi. Je veux être autonome, je veux pas dépendre de quelqu'un, et ça me gêne. Mais en même temps, je me dis, si moi, j'ai une manière de penser, voilà, ouverte, etc. Je vois pas pourquoi je ne rencontrerais pas un homme qui est aussi ouvert et qui est capable de réfléchir et de... Donc, bon, je me dis que je suis assez... j'ai de l'espoir, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc.
Mais c'est compliqué pour vous, comment?
Mais je pense que c'est aussi c'est de la peur. Moi, je pense que j'ai peur aussi.
Peur de quoi?
Ben, j'ai peur du rejet, j'ai peur de l'abandon, c'est toutes ces peurs-là, quoi. Donc, j'ai peur d'être maltraitée.
Oui.
Oui. Ça, mais c'est peut-être parce que, voilà, c'est ce que j'ai vécu dans toute ma vie, finalement, depuis l'enfance. Donc, forcément.
Depuis l'enfance, vous avez été maltraitée?
Bah oui, où j'ai vu des maltraitances aussi. J'ai vu.
Qu'est-ce que vous avez vu?
Bah, ma mère, par exemple. Donc, comme on reproduit... Bon, après, moi, je travaille sur moi, donc ça se reproduira pas. Et puis, en plus, j'ai un fort caractère. Mais quand même, j'ai vécu des choses qui font que j'ai cette peur-là. Mm-hmm. Après, je me dis, non, j'essaye de dominer cette peur. Je me dis, voilà, faut être positive.
Mm-hmm. Vous les avez vécues au travail, c'est bien de
ça? Au travail, et puis dans la vie personnelle aussi.
Comment?
Bah, j'ai été agressée. Donc, j'ai été agressée quand j'étais petite. Et j'ai été agressée aussi un peu plus adulte. Puis bon, je rencontrais des personnes dans la rue qui pouvaient m'agresser verbalement. Et c'était comme si on m'agressait physiquement.
Qu'est-ce que vous pouvez me rappeler, ces agressions?
Bah, quand j'étais petite, vers, je pense, 8 ans. Vers 8 ans, un animateur de centre de loisirs. Donc, il a mis sa main là où il fallait pas. Donc, voilà. Et en étant adulte, un homme aussi qui a mis ses mains là où il fallait pas. Après, moi, je dis pas que tous les hommes sont des pervers, mais il y en a. Mais heureusement, il y a des gens bien. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai cet espoir quand même de rencontrer quelqu'un. Mais...
Oui, bien sûr qu'il y a des hommes bien, évidemment.
Oui.
La majorité.
Oui, bien sûr.
Mais cette rencontre avec le français, est-ce que vous êtes... À chaque fois qu'on en reparle, vous êtes un petit peu bloqué là-dessus.
Non, mais on est amis. On est amis, c'est tout.
Ça peut pas. Et pourquoi est-ce que vous avez mis comme ça les freins avec lui d'emblée
Mais je ne mets pas des freins, parce que je le vois, on s'est au téléphone et tout, mais après, moi, je ne suis pas du genre à... Ben, je ne sais pas, je suis trop timide. J'attendrai qu'il fasse le pas.
Et ce serait possible?
Je ne sais pas.
Parce qu'il n'est pas musulman.
Il n'est pas musulman, oui. Ben, je ne sais pas. Je me pose la question.
Qu'est-ce qui a changé?
Ben, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais...
Non, mais dites-moi ce qui a changé.
Non, mais je commence à m'attacher à lui, c'est
ah,
vrai.
Ah, ben voilà, c'est bien ce que je ressentais depuis un moment.
Et lui, j'ai l'impression qu'il est encore plus attaché à moi aussi, vous voyez?
Oui.
Après, sûrement que je me monte des films.
Mais là, donc, comment ça s'est passé après ce déjeuner?
Eh ben... On a parlé, après... Ben,
de quoi avez-vous parlé?
De tout, en fait, on parlait de... Ben, en fait, il m'a confié qu'il était un peu raciste.
Ah bon?
Oui, j'étais morte. Après, non, mais il m'a dit que c'était pas genre la race supérieure par rapport à... Mais que, bon, c'est par rapport au comportement. Et je lui ai dit, mais moi, je comprends. Je peux comprendre. Mais après, je lui ai expliqué. Je lui ai dit que... Je dis, moi, mon père, il est venu en France. S'il avait eu le choix, il serait pas venu. Voilà, il a vécu la misère en Algérie. Et le fait que, bon, voilà, il y a eu la colonisation, ça a créé des choses. Et alors, lui, il me dit, mais moi, je suis pas responsable. Je dis, j'ai pas dit ça. Je dis, mais la France, elle doit régler des choses aussi avec la colonisation. La France, elle est responsable. Je dis pas que les Français sont responsables, mais la France. Après, le soir, il m'envoie un message, il me dit merci pour ton ouverture et tout. Après, moi, j'ai rigolé. Avec mon... Je dis, bon, tu me préviens juste si tu votes pour Le Pen, que je retourne en musulmanie. Il me dit, t'inquiète, je te préviens.
Et comment vous avez réagi quand il vous a dit ça?
En fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Oui. Il m'a expliqué, il m'a dit, moi, je ne suis pas là pour dire que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, ce n'est pas dans ce sens-là. Mm-hmm. Donc, je l'ai compris, mais ça m'a fait quand même un pincement. Parce que je me
Comment
dis,
un pincement?
Bah, je me dis, ouais, quand même, il est raciste. Moi, je suis arabe, quoi. Je suis une bougnoule, en vrai. Donc, comment bon.
Mais imaginez que vous ayez une relation avec lui... Même si ce n'est pas pour faire votre vie avec lui. Comment vous vivriez le fait d'être avec un homme qui vous a dit ça?
Bah là, quand ça vient en tête, j'ai l'impression d'être une traître.
Parce que c'est très ambivalent quand même.
Ouais. Bah, je sais pas. Vous me l'avez... Là, je m'en étais même pas rendu compte. C'est vous qui me le faites voir. On avait parlé aussi du voile.
Ben vous portez...
Ah, je porte le bonnet, il ne sait pas
le bonnet, oui.
Il ne sait pas, mais il m'a demandé si j'étais pratiquante. Je lui ai dit, ouais, je suis musulmane pratiquante. Je suis croyante et tout.
Et quand vous vous rencontrez, vous mettez le bonnet?
Oui, là, la dernière fois, j'avais un bonnet, je ne l'ai pas enlevé.
Mais sinon, les autres fois, vous l'enlevez?
La dernière fois, bah, j'étais à côté du travail, donc je l'ai enlevé. Je l'avais...
D'accord, donc il ne peut pas du tout savoir que vous couvrez la tête, quoi. Non. D'accord.
Donc, mais bon, peut-être qu'ils sont... Après, je sais pas s'il fait attention à ça, mais... Je sais plus ce que je disais. En tout cas, je pense que c'est pas quelqu'un de fermé, même si... Bon,
nous, psychiatres, on est
fermé,
des lanceurs d'alerte, mais de plus en plus, j'ai l'impression que nous sommes des espèces de rustines pour tous les dysfonctionnements sociaux et politiques. Et je trouve que... c'est trop facile de dire ah oui, elle est déprimée ou il est déprimé, il faut qu'il aille voir un psy. D'abord, on n'est pas assez nombreux. Aujourd'hui, on croule sous le boulot. Et je pense qu'il y a des choses à faire en amont pour prévenir. Et moi, je crois à la parole individuelle qui sert à la parole collective et qui sert à la prise de conscience collective. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça a un coût, hein, ça. De venir chez un psy, ça a un coût pour la communauté nationale.
Qu'est-ce que je fais? Oui,
Alors juste, je vais faire un point sur votre humeur et sur le reste. Comment ça va?
Ça va. Je suis ni excitée ni déprimée.
D'accord.
Je me sens sereine.
Ouais.
Bah, les retrouvailles familiales ont une saveur particulière quand même. Ça faisait longtemps que je voyais pas ma famille sans... Bah, déjà sans conflit. Ouais, un sentiment de paix, comme si... On se reconnectait un petit peu, parce que ces dernières années, ça a été quand même assez problématique. Mm-hmm. Puis, en filigrane, ce questionnement identitaire que j'ai pas vécu du tout de la même manière que mon frère et ma sœur. Mm-hmm. Parce que je pense qu'eux, ils ont réussi assez facilement à accepter leur dualité, et moi non. Mm-hmm. Je me suis fait la guerre depuis que je suis ado, quoi. Donc j'ai eu une adolescence beaucoup plus violente que mon frère et ma sœur. Moi j'ai choisi à peu près tout, sauf ce que j'étais. En fait, je suis allée très très loin dans ma volonté d'assimilation. Enfin, je me suis perdue en fait à force de... Voilà, d'essayer de ressembler à... Je sais même pas comment appeler ça en fait, à l'arabe parfaite.
Ouais.
À la bonne arabe, en fait, qui fait des efforts et...
Ce que vous avez été. Vous avez été...
Et y a aussi cette idée que rien ne peut être facile pour moi, rien ne peut être naturel, rien ne peut être... on ne peut pas m'aimer pour ce que je suis, simplement. Il faut qu'il y ait plus.
Ce que vous êtes, ouais. C'est quoi? On ne peut pas vous aimer parce que vous êtes... Pourquoi on ne pourrait pas vous aimer pour ce que vous êtes?
Mais je pense que cette blessure de rejet que j'ai pu ressentir petite, elle est là, en fait. Je pense qu'elle m'a beaucoup plus marquée que ce que j'ai voulu croire pendant des années. C'est-à-dire... j'ai toujours senti une répulsion. Et quand on m'a appréciée, c'est parce que je jouais un rôle, j'étais autre chose. Encore une fois, je veux pas tout mettre sur le compte de mes origines ou de mon extraction. Mais je pense que quand on est une enfant, on comprend très vite que si on se présente tel qu'on est, c'est-à-dire... cette petite fille de prolétaire arabe, on est pas séduisant. On est pas séduisant, enfin, le fait que même en maternelle, on voulait pas jouer avec moi parce que j'étais arabe, donc j'ai très vite été toute seule, que dans la queue pour aller au gymnase, on voulait pas me prendre la main, enfin, j'ai ces réactions de rejet, je les ai vraiment vécues. Alors, doublé du discours parental qui m'a fait intégrer le fait que en tant qu'arabe, je devais montrer des gages, tout le temps, c'est devenu un automatisme chez moi. Je suis allée, dans des recoins quand même assez, assez extrêmes, et je suis quand même allée jusqu'à me convertir au christianisme traditionnel. Alors s'il y a une phrase que je dois retenir de votre bouquin, c'est vraiment l'épuisement à être français. À essayer de devenir français.
Vos parents savent que vous avez été converti?
Alors, bon, mon père, non, parce que je pense qu'il... de toute façon, on n'a pas de rapport régulier, et ça serait incompréhensible pour lui. Ma mère, j'ai essayé d'évoquer ça avec elle il y a 2 ans, et on a eu une discussion qui a été très très dure, hein, mais où surtout mon frère, en fait, a essayé de m'expliquer... Ce que j'arrive à comprendre maintenant, en fait, que ce que j'identifiais comme une quête spirituelle, c'était plus que ça. C'était quand même guidé par presque une volonté d'anéantissement de tout ce que j'étais, quoi. Je pense que je suis allée au bout, en fait.
Mais c'était par conviction que vous vous êtes convertie ou maintenant, a posteriori?
C'est pas n'importe quelle église, c'est une église assez politisée. Où j'ai pu... Saint-Nicolas du Chardonnay. Non, non, j'ai pas de souci. Hein. J'ai pas de souci à le dire.
Il avait été franco, quoi.
Oui, mais comme dans tout, en fait. Non, mais comme dans tout, et quelque part, il y a une certaine cohérence. Hein. J'ai plus jeune. Je suis allée dans l'excès total, voilà, dans le sens libertaire. Je voulais être plus occidentale que les occidentales. Mm-hmm. Je veux dire, enfin, je peux dire aujourd'hui que je pense que j'ai tout essayé. Pour répondre à votre question, parce que j'ai pas répondu, la quête spirituelle était sincère. Mm-hmm. Elle était vraiment sincère. Hein. J'avais une soif de Dieu. J'avais même si, bon, l'église accueille tous les croyants, et voilà, je restais la musulmane convertie, et puis il y avait une énorme violence sociale aussi là-bas, c'est-à-dire que c'est une église fréquentée par la haute bourgeoisie, c'est l'entre-soi, Paradoxalement, en fait, cette expérience, elle m'a ramenée à ce que j'étais. Et que je pouvais pas changer. Alors, chose à noter aussi, mes douleurs ont commencé à ce moment-là. Je pense que, voilà, tout ce... Le fait d'avoir un peu, dès les premières séances, appuyé sur ce côté masochiste en moi, ça a fait résonance, et du coup, j'ai vu ces trois dernières années, parce que je suis quand même restée 3 ans dans cette église, hein, comme le stade ultime, et que ce soit en tant que femme, on peut pas dire que... Ça soit très facile d'être une femme catholique traditionnaliste, hein, mais comme dans tous les extrémismes religieux d'ailleurs, ça a été vraiment le stade ultime du masochisme en termes physiques, en termes spirituels, parce qu'on n'est jamais assez bien. Et je pense que pour quelqu'un comme moi, c'était extrêmement dangereux.
Parce que c'est jamais assez.
Ouais. Et puis on bascule vite dans la haine de ce qu'on est, hein. Le stade ultime du masochisme aussi en termes identitaires, parce que je pense qu'en termes d'ethno-masochisme, on peut pas aller plus loin, c'est-à-dire que j'ai fréquenté pendant des mois et des mois des gens qui détestent tout ce que je suis, en fait. Hein. Je suis presque même allée jusqu'à les absorber, ces discours. Et où j'en suis, je pense que c'est trop tôt pour le dire, parce que la déconstruction a été peut-être trop loin. La déconstruction de ma partie arabe. Je m'en suis rendu compte auprès de ma famille. J'étais plus en guerre contre eux parce que, voilà, forcément je leur ai fait la guerre pour ce qui. L'image de moi qui me renvoyait. Et puis peut-être. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'est pardonné. Ce que ma mère a encore du mal à comprendre, en fait, c'est pourquoi je me suis infligé tout ça et pourquoi j'ai tant de mal à me... Enfin... En fait, elle a du mal à nous comprendre en tant qu'enfants nés en France. Elle a du mal à comprendre nos batailles, nos dilemmes. Mais, voilà, j'ai senti que d'un côté comme de l'autre... Un truc tout bête, hein, qui peut paraître anodin, mais voilà, j'ai passé des heures avec ma mère à cuisiner des plats arabes et à chose que j'avais pas fait depuis des années, et elle était super heureuse. Je fais de la rechta, elle m'a appris à rouler le couscous, enfin des trucs tout bêtes, j'ai 34 ans, hein, il a fallu que j'attende 34 ans pour que ma mère me mette les mains dans un couscousier.
Ça va?
Ouais, ça va.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'on s'est dit la dernière fois par rapport à...
Après la séance, je suis un peu redescendue, ouais, en fait. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse un travail de réconciliation. Je me suis dit, mais c'est vrai, quoi. J'ai la chance d'être dans deux grandes civilisations à l'intérieur de moi, dans ma construction. Donc, il faut que... Parce que je disais toujours, même pour me faire recruter... J'ai toujours, mais moi j'ai ma double culture, j'ai un double regard. Et en fait, je me disais, mais je le disais sans vraiment y croire.
Pourquoi?
Mais je sais pas, en fait, c'est avec le recul, en fait, je me disais, mais en fait, je le disais parce que parce que physiquement, c'est presque comme si je devais justifier ce que j'étais à l'extérieur, en fait, l'arabe, en fait. Et en fait, je me dis, mais bah, certes, mais je m'en suis jamais servie, parce que je l'ai jamais vraiment connue, cette deuxième culture. Je la connais pas, cette histoire-là. Tout ça, maintenant, ça prend une autre dimension. Et puis c'est paradoxal, parce que moi, j'ai toujours voulu faire ma vie avec un Marocain, parce que je voulais partager cette culture. Et en même temps, c'est une culture que j'ai pas appris à aimer, en fait. Qu'on m'a pas appris à aimer, même dans ma famille. Et voilà, comme ma famille, elle a aussi une histoire douloureuse avec ce pays. Enfin, ma mère a une histoire douloureuse avec le Maroc. Ben, moi, j'ai vécu à travers elle cette histoire douloureuse, en fait. Parce que ça a rejailli sur moi. Et en éduquant mes filles aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que... souvent, quand j'allais à la crèche, tout ça, on me disait, mais je voyais des parents qui parlaient à leurs enfants en espagnol, en anglais, parce que c'était leurs origines. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a des filles qui gardaient ma fille à la crèche, me disaient, mais vous lui parlez pas en arabe? Ben non, je lui parle pas en arabe, parce que c'est pas naturel. C'est votre langue maternelle. Et pour moi, ma langue maternelle, c'est le français. Parce que c'est assez bizarre, alors que je parle en arabe avec mes parents, mais j'arrive pas à... Enfin, j'arrivais pas, parce que maintenant je parle avec mes filles, j'essaie de leur parler dans les deux langues, comme je peux. Enfin voilà, c'est... Puis voilà, puis tout ça questionne à chaque fois, et puis ça me ramène, et puis c'est douloureux aussi. Ça, c'est douloureux, parce que je me dis, il y a un peu de... J'en veux, en fait. J'en veux un peu à mes parents de me dire, mais ils nous ont jamais fait aimer ce pays... Pourtant, ça fait partie de nous et presque on n'a pas le droit de l'aimer, en fait. Moi, je peux pas dire à ma mère, ah, c'est génial, ah, c'est génial, on a passé des super vacances, c'était top. Donc je me fais, en fait, je le dis pas. Mais après, quand j'étais très jeune, que j'étais au collège et que j'avais une très bonne amie à moi, qui s'appelait Virginie, et que sa mère venait de temps en temps nous chercher à l'école, et qu'un jour, j'avais des meilleures notes que sa fille, et c'était vraiment des gens aisés, et j'avais des meilleures notes, et qu'elle dit, ah bah dis donc, pour quelqu'un qui a des parents analphabètes, et puis moi j'avais envie de répondre, mais je me suis dit, si je réponds...
Qu'est-ce que vous auriez répondu?
J'aurais dit, mais mes parents ils sont pas analphabètes. Enfin, ils nous ont fait aimer les livres, la lecture, les voyages. Mmh. C'est pas des gens analphabètes, c'est des gens très intelligents. Mais je suis sûre que ça aurait été mal pris. Enfin, on peut pas parler, même encore au jour d'aujourd'hui, avec toute l'actualité et tout ça. Moi, j'ai essayé, je dis, ah, mais c'est pas possible ce qui se passe et tout. Enfin, il y a quelque chose qui va pas avec, voilà, avec les musulmans, avec, oh non, faut pas dire ça, ça va passer, ça va se tasser, c'est normal, il y a des gens, ils font des choses pas bien, et donc, non, c'est pas normal, maman, c'est pas normal qu'on nous traite comme ça, enfin, et, voilà, mes parents, c'est vrai que, ça, c'est vrai qu'on l'oublie, mais ils ont vraiment tout quitté et tout sacrifié. Moi, je sais que mon père, il me racontait qu'on le réveillait à 3h du matin pour aller arroser des salades. Il vivait au départ dans une petite chambre sans eau, sans électricité. Moi, quand je vois mes parents qui disent « on a eu de la chance d'être en France », oui, vous avez eu de la chance peut-être à un moment T, parce que matériellement, c'était pas le top, mais ça me fait de la peine. Et nous, on est au milieu de tout ça. Moi, enfant d'immigré, qui a fait des études, qui a un bon travail, qui éduque mes enfants justement, parce que moi, j'ai eu une mère qui était au foyer, mais... Ma mère, la phrase qu'elle m'a toujours sortie, c'est « Je veux jamais que t'aies à demander pour acheter quelque chose à ton mari. Jamais. Ou à un homme. Il faut que tu sois indépendante. » Et c'est pour ça que moi, ça m'a donné la force d'encore plus m'investir, entreprendre, parler. Je sais pas, ma fille, elle mange à la cantine. Et puis, avant de manger, elle dit « Bismillah ». Elle dit bismillah parce qu'on le dit, nous, à la maison, avant. On dit bon appétit. On dit les deux, en plus. On dit bon appétit, bismillah. Et ma fille, elle dit bismillah. Et puis, la personne qui la surveille, elle va dire à la directrice. Puis la directrice, elle va prendre peur. Et puis, elle va appeler au rectorat. Et puis en fait, moi, j'entends plein de choses comme ça dans l'actualité. Je me dis, mais c'est-à-dire que moi, ma fille, on va nous reprocher. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai peur qu'on rentre dans l'éducation que je donne à mes enfants. C'est-à-dire que j'ai peur qu'on rentre dans mon intime, en fait. Et je pense que c'est ça qui crée un peu cette anxiété en moi.
Je pense aussi.
Et c'est là où l'identité, elle est mise à mal chez moi. En fait, j'en ai marre qu'on parle à ma place. J'en ai marre que les gens, ils parlent On voit très peu de femmes arabes parler, enfin de femmes musulmanes parler, ou soit c'est des musulmans comme on veut, mm-hmm. c'est-à-dire voilà, qui rentrent dans les cases.
C'est quoi un musulman comme on veut ?
Bah ça. Ouais.
On va s'arrêter là ?
Oui.
Merci.
Est-ce que vous pouvez signer ?
Ouais. Moi je vais signer aussi. Je vais ouvrir la fenêtre.
Ça a été ?
Non, mais je trouve que c'est bien que vous ayez parlé de ce que vous transmettez à vos filles, c'est bien.
C'est compliqué hein, de tout. Je sais pas, il va falloir peut-être la troisième génération, non ? Pour abattre tous ces clichés encore. Moi, je pense que mes filles, elles accepteront pas ce que moi j'ai accepté, c'est sûr. Mmh. C'est la quatrième génération. Il y a des choses qui passeront plus. C'est sûr et certain. Et de la façon dont je les éduque en plus, ça va être compliqué. Hein. Va falloir venir armée avec elle. Enfin, armée, je retire. Va falloir venir. Allez, dire, va falloir venir avec un bagage. Vous avez vu la ceinture.
Évidemment que vous êtes de mauvaise foi, Clément.
Mais bien sûr que non, mais. Alors, c'est vous êtes l'arbitre des bonnes fois.
Mais évidemment que vous passez de nuit.
Vous sondez les cœurs, vous savez qui est de bonne foi, de mauvaise foi.
Mais c'est ça qui est. Et vous le dites en
là, il y a quelque chose, finalement, de la politique qui est ici et qui n'a pas lieu d'être là, en fait. C'est pas le lieu du règlement politique, un cabinet de psy, finalement.
Moi, je pense que tout est politique. Je pense que la politique intervient sur la majorité des sujets. Mon autre casquette, c'est les femmes, c'est les troubles psychiques des femmes. Les troubles psychiques des femmes sont éminemment politiques. La place du corps de la femme est un sujet éminemment politique. Donc, il y a, pour moi, il y a un lien très important entre comment on envisage, comment on voit une société, comment on construit une société et l'impact que ça a sur les individus.
Mais qui devront répondre à une question simple ce matin. C'est quoi être français en 2019 ? Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation.
Les enfants vont bien ?
Ça va.
C'est vrai ?
Oui, j'ai inscrit mon fils à un collège privé, dans un collège catholique.
Pourquoi un collège privé ?
Parce que...
Et catholique, c'était vous qui vouliez ?
Oui. Bah, j'essaie de lui apprendre la tolérance, en fait. Mm-hmm. Je veux vraiment qu'il apprenne. Je veux qu'il comprenne. Je veux vraiment qu'il connaisse tout. Je veux qu'il soit tolérant, je veux qu'il ait une ouverture. Pas à 5 ou 10 degrés, mais vraiment à au moins 180 degrés, en fait.
Mm-hmm. Votre femme était d'accord ?
Oui. Je pense même qu'elle était plus d'accord que moi. Non, parce que je suis quand même collège public. Hein. C'est-à-dire que ouais, j'ai...
Vous avez grandi dans le public ?
Oui, j'ai grandi dans le public.
Ouais.
Ouais, je suis vraiment le pur produit de...
De la République.
Oui, de la République. Mm. C'est pour ça que je comprends... C'est pour ça que j'ai jamais... C'est pour ça que j'ai pas compris tout ce qui m'arrivait, en fait. Mm. Parce que pour moi, j'étais vraiment totalement mais pareil, finalement. Mm-hmm. Les mêmes séries, les mêmes dessins animés, les mêmes, la même école, la même... Mmh. Je ne comprenais même pas qu'on puisse réfléchir ou me voir différemment, en fait.
Vous avez l'impression d'étouffer ici ?
Oui.
Pourquoi ?
Bah, déjà, on est enfermé entre quatre murs. On ne peut plus allumer la télévision parce que c'est plus un ami.
Et, c'est plus un ami ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que aujourd'hui la télévision... je ne sais pas, c'est quelque chose qui... dès que je l'allume quelques minutes, ça y est... je suis pas bien, en fait. C'est étouffant. Voilà.
Et les choses qui vous étouffent, c'est quoi ?
Bah, en fait, aussi bien avant, j'avais l'impression qu'on jouait vraiment sur la peur des gens. Mais là, aujourd'hui, on est passé sur autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de... Bah, c'est de la haine qui commence à s'installer, finalement. Et c'est vrai qu'avec ce contexte, avec ce confinement, plus on rajoute ça... Il y a vraiment des ingrédients qui sont vraiment très, très, très dangereux.
Mais vous savez, vous dites ça chaque fois, le mot « ça ».
C'est vrai ?
Oui. Non, pas vous seulement.
Il y a toujours ça. Mais c'est quoi ça, au fond? C'est quoi ça?
Je sais pas, j'ai appris à dire ça pour...
Pour
parler de tout ce qu'on peut pas dire, en fait.
Oui, justement. Mais qu'est-ce qu'on peut pas dire?
Tout n'est pas bon à dire, je sais pas, c'est... Je sais pas. Si jamais j'ai besoin de parler plus clairement, directement, de manière plus directe, ben voilà, aujourd'hui, c'est tous les discours qu'il y a. Surtout, c'est des discours où on monte les gens les uns contre les autres. Là, en ce moment, c'est l'islam, la religion, c'est... C'est-à-dire que c'est devenu carrément une guerre de religion, j'ai l'impression. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qu'on attaque, en fait. J'ai l'impression, j'ai cette sensation, peut-être que je suis peut-être un peu plus sensible, en fait.
Ben, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant que vous n'arriviez pas à dire facilement le ça.
J'ai toujours appris comme ça, en fait.
Oui, qu'il fallait pas le dire.
Oui.
Ouais.
Pourquoi? Parce que ne pas le dire, déjà, c'est commencer à oublier et surtout n'y pas y croire, en fait, finalement. Mmh. Et donc, et au-dessus de ça, c'est-à-dire que même quand on le dit, ça sert à rien, c'est même parfois même pire, en fait.
Mmh. Bon, ben, je croyais que vous alliez bien.
Justement, je vais bien aujourd'hui, je suis capable de parler et de dire les choses, donc...
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Aujourd'hui, le professionnel n'a plus la place qu'il avait. J'essaie plus non plus de me faire aimer, de me faire apprécier. En fait, j'essaie d'être le maximum moi-même. C'est vrai que le rôle qu'on me donnait, il était très dur.
C'était quel rôle?
Le rôle de la personne qui devait toujours justifier tout. C'est-à-dire que là, récemment, voilà, pour un exemple, j'ai été à des cours de sculpture. Et c'est vrai que j'avais deux personnes qui n'ont pas arrêté de parler de Samuel Paty. Juste pour voir ma réaction, finalement. C'est vrai que dans ma tête, c'était en train de bouillir, en fait. Parce que j'étais en train de leur parler, mais sans leur parler. C'est-à-dire que je parlais dans ma tête, je me disais, voilà, qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que je vous dis? Et j'ai ressenti, en fait, ce que je ressentais au travail à l'époque. Et c'est vrai que j'ai eu ce petit flashback et je me suis rappelé. Mais en parallèle, on arrivait à là, je sais pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche énormément, en fait. Parce que j'ai l'impression d'être différent. Différent même dans la pensée. Mais je pense qu'on... La plupart des êtres humains, ils sont choqués quand quelqu'un se fait assassiner. Parce qu'on a même besoin de... Je pense même pas qu'on ait ce besoin, finalement, d'essayer d'expliquer quelque chose. Donc là, oui, effectivement, je crois même que je vais arrêter. Même aujourd'hui, cette différence, elle existe encore. C'est-à-dire que même avec les enfants, là, je vois que... Alors que j'ai tout fait, hein. Mais vraiment, tout fait.
C'est quoi, tout fait?
Ouais, j'ai tout fait. Ça veut dire que, justement...
Les prénoms sont comment?
Ça va.
Ok.
C'est ça, c'est des prénoms quand même assez universels. Et donc, mais non, j'ai tout fait. C'est-à-dire que même sur les traditions, elles sont contrôlées sur plein de choses, en fait. Je sens qu'ils commencent à sentir, en fait. Alors qu'ils sont pas... Je ressens, ils ont envie de... Il y a eu un moment donné, c'était avec la sortie scolaire, je crois qu'il y avait une dame voilée... Donc je sais qu'il y a eu un long débat à la maison sur ça.
Parce que votre fils se demandait si c'était...
Oui, il demandait des explications, il ne comprenait pas, en fait.
Il ne comprenait pas quoi?
Il ne comprenait pas pourquoi cette maman n'avait pas le droit d'aller à une sortie scolaire, en fait. Et c'est vrai que c'était dur à expliquer. Comment expliquer sans vraiment donner son point de vue
Et du coup, ce que vous me dites, c'est que vous êtes dans le contrôle permanent de tout, en fait.
C'est ça.
C'est fatigant, ça, non?
Très fatigant,
oui. Ils grandiront en France, vos enfants?
Je fais tout pour qu'ils aillent voir autre chose, en fait. Je mets beaucoup d'accent sur la langue anglaise pour leur donner l'envie, peut-être, de voir autre chose.
De vivre dans un pays anglo-saxon, vous les sentiriez plus en sécurité ou...
Aujourd'hui, avec ce qui se passe, très honnêtement, c'est vrai que pour la France, je commence vraiment à avoir peur, en fait.
Pour eux, vous voulez dire?
Mais là, aujourd'hui, ouais, ça devient... Je me sens plus vraiment en sécurité, en fait. Pour mes enfants, je pense qu'aujourd'hui, encore, ça va, mais d'ici demain, je sais pas. Tout ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux, en fait, finalement. Et qu'ils essaient au moins de vivre comme on a vécu, nous, il y a quelques années.
Bien.
On vivait bien. Mmh. On avait même le droit de sortir.
Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. N'oubliez pas votre téléphone et votre portefeuille.
Si j'ai voulu faire ça, c'est parce que d'abord, je suis un médecin engagé. Ça, je l'assume parfaitement sur plein de sujets, les femmes, les jeunes en souffrance, et sur le sujet des conséquences de la discrimination sur les individus, la psychologie des individus. Mais j'ai la chance de pouvoir rendre leurs paroles publiques. Je voudrais que les gens sachent ce que ça fait dans une famille, chez un individu, ce que ça fait que de vivre dans des mots qui font mal en permanence. C'est comme si on recevait des coups. Ce sont des punching balls aujourd'hui. Voilà. Les Arabes de France sont des punching balls.
J'avais plaisir de vous revoir, ça fait longtemps que ça va. Ça va très bien même. Super.
Pas de neuf ?
Tout va, quoi de neuf ? Beaucoup de choses. Beaucoup de musique. Et puis, j'ai passé presque toute la semaine dernière chez un ami dans le 16e, juste à côté de la prépa où j'étais quand je suis arrivée en France. Mmh. Et donc, du coup, ça a remué beaucoup de choses. Et puis, j'étais surtout contente de voir que c'était juste de vieux souvenirs. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout la même personne, surtout que... Mmh. Et que j'étais vraiment à l'époque mal, mmh. et que je m'en rendais pas compte. Enfin, j'étais en panique tout le temps sur mes gardes, en fait. Et,
À quel sujet, à propos de quoi?
Bah, en fait, c'était les premières années où je suis arrivée, même les premiers mois. En fait, je me suis retrouvée face, comme je vous l'avais dit à l'époque, à mon algérianité qui a été, en arrivant en France, un problème pour certains et un problème aussi pour moi. Mmh. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte à l'époque. En fait, c'est vraiment quand je suis venue vous voir que je me suis rendu compte que tout ça avait pesé de manière indirecte sur certains choix que j'ai faits, ne serait-ce que dans ma carrière, sur certains comportements que j'avais en société, sur une manière d'être en société qui m'éloignait de qui j'étais profondément. Alors... et puis encore une fois, qui j'étais profondément, c'était juste moi, c'était pas une Algérienne qui fait des youyou tout le temps, quoi. Et je me suis autorisée, finalement, avec tout le parcours que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait, j'ai pu me reconnecter à ce que j'aimais profondément, indépendamment de comment on me voyait de l'extérieur. Donc voilà, moi quand j'avais 15 ans, j'ai jamais voulu être, enfin je pensais pas être chanteuse. Parce que quand on grandit en Algérie, on n'a pas ce genre de... En tout cas, dans ma famille, en plus, il faut faire des études sérieuses. Donc à l'époque, moi, mon objectif, c'est venir en France, être ingénieur, réussir au sein de la société française et monter, mes parents étaient déjà médecins, mais voilà, c'est le même statut, mais en France. Donc on est plus haut, quoi, parce que la France, c'est mieux que l'Algérie. Mais maintenant, je me rends compte que... Alors déjà, j'ai pu, en venant en France... à un moment m'autoriser à rêver et puis finalement à être qui j'étais vraiment, c'est-à-dire une amoureuse du jazz. Je suis algérienne, mais je peux faire du jazz.
C'est ça.
Tout à fait possible. Oui. Et on peut faire du jazz, mais du vrai. Là, il y a encore... juste avant le confinement, là, le 29 octobre, j'ai fait un concert où j'avais hâte de faire ce concert-là parce que je ne portais plus rien d'autre que l'amour que j'avais pour la musique. Et c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais chanter ? Je viens de finir d'écrire un morceau et je pense qu'il est tout à fait de propos. Mais c'est en anglais par contre. Come with me, I'll show you the beauty of this world and you will feel the greatness coming from above. Then you'll finally realize the light that's shining through your eyes was always deep into your heart. Love is meant to be. Come with me, I'll touch the beauty of your heart and you will feel your happiness is not that far. Then you'll finally realize the light that's shining from your eyes
who's always deep into your heart. Love is meant to be. Come to me. Embrace the magic of your soul and let me feel that magic love I can't ignore. Then I finally realize the light that's shining through your smile is love that's growing in your heart. This love is meant to be.
Oh, quelle émotion.
Je n'aurais jamais imaginé que je serais dans cet état-là. Ça fait quand même... Bah voilà, j'ai fini mon traitement antidépresseur.
Ouais.
En 2020, hein, en juin 2020.
J'ai votre dossier là, j'étais en train de noter.
Je suis venue vous voir en mars 2019, nous sommes à même pas 2 ans.
Mars 2019, exact. Mars. On a commencé à baisser.
Ouais, on a commencé à baisser arrêté. En mars et puis j'ai arrêté complètement.
Ouais, c'est formidable, je suis super contente. Eh bien, j'espère ne plus vous revoir.
Ou peut-être que vous serez en guest à un des grands concerts prochainement.
Non, mais je viendrai, ouais. Je viendrai.
Greatness coming from above. Come with me, I'll show you the beauty of the world, and you will feel the greatness coming from above. Then you finally realize the light that's shining through your eyes is laying deep into your heart. Love is meant to be. Come with me.
C'était Je me suis fait la guerre, avec le docteur Fatma Pouvet de la Maisonneuve, psychiatre et autrice d'Une Arabe en France aux éditions Odile Jacob, et avec ses patients qui ont choisi de rester anonymes. Musique originale, Love is Meant to Be, de Amira Nejjar aka Mira. Coordination, Aurélie Charron et Inès Duperron. Prise de son, François Rivalan et Sandrine Malon. Mixage, Claude Niort. Réalisation de Nathalie Battus, un documentaire de Stéphane Mercurio.
C'est fini, hein. Je pense que vous pouvez récupérer les micros.
La semaine prochaine, c'est une expérience en direct et participative, Radio Arbre avec la comédienne Laetitia Doche. Une libre antenne pour et par les arbres. N'hésitez pas à nous écrire pour participer, radioarbre@gmail.com ou téléphoner en direct dimanche à 22h pour faire parler l'arbre qui est en vous.